Pour commencer, on va recevoir Hélène Saint-Onge et Louise Canapé. Hélène Saint-Onge est gestionnaire culture et langue au Conseil des Inuits de Pessamit. Puis Louise Canapé travaille ou soutient la langue Innu au Conseil des Inuits de Pessamit aussi. Puis elle a œuvré pour l'éducation et la langue.
Elles sont déjà avec nous, je pense, vous êtes là?
Quoi, mesdames?
Quoi?
Hey, bonjour.
Bonjour.
Donc, commençons par Madame Saint-Onge. Qu'est-ce que ça fait une gestionnaire culture et langue dans un conseil comme le Conseil des Inuits de Pessamit?
Ben, en tant que gestionnaire, moi, je coordonne les activités des deux sous-secteurs qui sont sous ma responsabilité, la culture et la langue. Ce sont toutes des activités culturelles qu'on fait dans la communauté. Et c'est mon rôle de coordonner toutes ces activités-là et tout ce beau monde-là aussi.
Et vous, Mme Canapé, votre travail en soutien à la langue Innu consiste en quoi?
Pour ma part, je suis soutien au développement pédagogique. Je suis une ressource linguistique. Je fais de la production de matériel pédagogique avec une autre collègue. On travaille à produire du matériel pour les élèves du primaire. Cette année, on fait cette année troisième année. Et on a déjà fait première année et deuxième année. Ça veut dire qu'on a un guide d'enseignement et un cahier d'activité là, pour la première, pour la deuxième. Et cette année, on réalise celui de troisième année.
Pour bien faire comprendre à nos auditeurs, je comprends bien que vous avez une école dans votre communauté, vous avez cette chance-là.
Oui, on a une école primaire, on a aussi une école secondaire.
Puis, comment?
Il y a l'enseignement de la langue Innu, mais c'est 2 heures sur un cycle de 9... 2 heures, oui, c'est ça, 2 heures sur un cycle de 9 jours.
Mais pour développer tous ces outils pédagogiques, ça prend une observation sur le terrain. Toutes les deux, j'imagine, vous êtes particulièrement attentive à tout ce qui se passe au niveau de la langue et de la culture dans le milieu.
Oui, on a beaucoup d'expérience au niveau de la langue Innu. On a travaillé de nombreuses années à l'Institut de Sagadèche, entre autres, pour la production du matériel pédagogique. Et Louise et sa collègue Adelina ont été des enseignantes en langue Innu pendant plusieurs années. C'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise pour la production du matériel pédagogique.
Est-ce que vous parlez un peu tous les deux, Innu?
On parle Innu, oui.
Couramment.
Ah, chanceuse!
Puis,
on a cette chance-là.
Dans quel état on pourrait dire que la langue Innu se porte au plan local à Pessamit?
Sur le plan local, on a fait une rencontre la semaine dernière avec quelques personnes de la communauté. Puis on leur a posé la question, quel était leur constat par rapport à l'utilisation, à l'emploi de la langue Innu autour d'eux. Et ils disaient qu'ils entendaient les jeunes parler, quand ils étaient ensemble, se parlaient en français. Très jeunes, ils disent aussi que les jeunes, ils parlent Innu à la maison. Quand ils sont à la maison, ils sont très jeunes. Puis, aussitôt, après la rentrée scolaire, ils communiquent davantage en français. Puis, moi, j'en ai fait le constat aussi. J'étais à l'école secondaire, puis de plus en plus, j'entendais les jeunes s'exprimer en français quand ils se rencontraient à la récréation.
Donc, il faut être attentif à inciter les jeunes à parler Innu, là.
Oui,
absolument.
Mais ça vient pas aussi facilement qu'on voudrait, j'ai l'impression, puisque vous entendez beaucoup de français, là.
Oui, on fait face à une perte progressive et rapide de l'utilisation de la langue Innu, surtout chez les jeunes de la communauté. Là. C'est vraiment très rapide.
On est malade.
Oui, exactement.
C'est quoi les stratégies qui sont déployées par le Conseil des Innu de Pessamit pour contrer ça? Vous nous avez parlé de guides éducatifs, de programmes pédagogiques. Oui, la sensibilisation, comment ça se fait, ça?
Ben, on fait ça à la radio, on fait beaucoup d'affichage, on, On a une page sur Facebook où on diffuse toutes les informations. Donc, on essaie d'être très, très... on essaie d'être présent le plus qu'on peut. Et on a des rencontres, on a des activités. Justement, le mois de mars, c'est le mois des langues autochtones.
Oui.
Et nous, on a beaucoup, beaucoup d'activités qu'on est en train de faire, qu'on a déjà fait aussi depuis plusieurs années pour promouvoir la langue, pour sensibiliser sur la perte de la langue aussi.
Beaucoup d'observateurs, ils nous m'ont dit que la langue Inuamun, c'est une langue du territoire, c'est une langue qui décrit les rivières, qui décrit les forêts, puis que plusieurs mots de ce territoire-là se perdent puisqu'on est de moins en moins en contact avec les nouvelles générations, avec le Nutchimit, avec le Nitassinan. Est-ce qu'il y a des éléments dans votre sensibilisation, dans vos stratégies pour reconnecter avec le territoire puis qu'on puisse parler Inuamun sur le territoire aussi?
Mon Dieu, c'est une grande question. Parce que on est très peu de personnes là, qui travaillent pour la sauvegarde là, de la langue. Donc, on a comme plusieurs, toujours, dossiers à traiter. Mmh. Donc, on veut réaliser plusieurs activités, mais c'est sûr, c'est le temps nous manque, on est peu de personnes, mais on essaie de donner le plus qu'on peut pour pouvoir réaliser des activités qui pourraient aider là, au maintien de la langue. Comme juste faire la production de matériel, là, ça prend quand même un certain temps. Là, ça a pris une année. Au niveau du ministère, ça leur prend plus de temps pour réaliser juste seulement un matériel pour une année scolaire. Puis nous, on est comme très peu de personnes là, dans ce travail-là. Mais c'est ça, on fait notre possible là, pour faire le plus possible d'activités qui pourraient aider. Là,
ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait on fait des enregistrements d'aînés qu'on diffuse sur un site web. Ça peut aider à promouvoir la langue du territoire parce que les aînés parlent bien souvent de leur font des récits de vie, des courts récits de vie, donc les mots du territoire reviennent là. C'est qu'on essaye de promouvoir ça et de diffuser aussi la langue des aînés. Entre autres, c'est ce qu'on fait.
Est-ce que je comprends qu'il serait important pour le Conseil puis les autres paliers de gouvernement qu'on octroie plus de ressources à la sauvegarde de l'Inuaïmun à Pessamit en particulier, mais pour toutes les autres langues autochtones?
Oui, c'est sûr. Mais ça prend aussi une expertise.
Oui.
Parce que nous, on est quand même des personnes qui ont travaillé depuis plusieurs années pour la langue Innu, fait qu'on connaît quand même assez bien. Et ça prend de la formation. Il faut que les ressources, même si on a beaucoup de ressources et qu'on ne peut pas les former, on n'a pas le temps de les former, ça, c'est quand même très comme un coup d'épée dans l'eau, là. Mais on a besoin de ressources qui sont formées, qui sont compétentes aussi et qui ont quasiment la vocation parce que c'est quelque chose qui est très demandant.
Est-ce que je comprends derrière ce que vous dites que, en fait, la journée d'un fonctionnaire, ça dure 3 jours. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps à avoir les ressources dont vous avez besoin.
Ah oui, ça prend toute une formation parce que déjà, nous, on a 2 relèves, 2 personnes qui sont intéressées à travailler pour la langue Innu, sur la langue Innu. Mais
on les forme au fur et à mesure.
Exactement, on les forme
au fur et à mesure. On développe leurs compétences en langue Innu au fur et à mesure. Elles ont des connaissances, mais c'est au niveau de l'écriture où on les guide, on leur explique, on les soutient pour avoir une meilleure compétence là, au niveau de la langue Innu.
Dans cette recherche d'outils, que vous travaillez sur cette révision d'un dictionnaire Inuramun en anglais et en français, hein?
Oui, on travaille en collaboration avec l'Institut de Tagabish. C'est des rencontres à chaque semaine pour travailler encore sur le dictionnaire, pour améliorer le dictionnaire en ligne.
C'est comme l'Académie française à Paris, mais ça se passe à Côte-Nord.
Exactement.
Mais c'est un peu le rôle d'Institut de Chicapèche.
Ouais.
Qui s'aspire. Qui s'appelait avant l'Institut culturel montagnier Innu avant, si je me rappelle bien.
Oui, exactement. Institut culturel et éducatif montagnier.
Ah oui, ben, c'est ça, merci. on parle aussi d'avoir fait un concours pour le mois le mois de mars pour le destiné à promouvoir la langue Innu, donc le concours à la radio Ndedemuk.
Oui, c'est un concours qu'on fait depuis plusieurs années déjà. C'est fait pour sensibiliser la population vraiment à la perte progressive de la langue. On utilise des mots, à travers notre Innu, on utilise des mots français.
On switch.
On fait du code switching. Puis ça, c'est très, très répandu, c'est tellement facile aussi. C'est que les personnes doivent parler juste en Innu pendant 3 minutes. Et c'est pas si facile que ça.
Est-ce que le contraire est vrai des fois? Est-ce que certains qui parlent en français utilisent des mots Innu?
Probablement.
Probablement,
mais... Le contraire est plus répandu.
OK.
C'est comme une forme d'érosion de la langue. Hein? La langue est en train d'être remplacée un petit peu par le français.
À cause, c'est plus facile de trouver ces mots en français des fois qu'en Innu?
Et plus court aussi.
OK.
Oui, c'est plus court.
Pouvez-vous me dire dites-moi un mot sur ce que c'est qu'une langue polysynthétique, là. C'est-à-dire que dans un seul mot, on peut placer beaucoup de réalité ou de qualité, si on veut.
Bon, on peut juste en nommer le mot école.
Oui.
Quatre, je peux te mettre au toit. Ça veut dire c'est le lieu où l'on enseigne.
Ou le lieu, c'est ça, c'est la. Le bâtiment où on enseigne.
Le bâtiment où l'on enseigne.
Juste pour ce mot-là, pour le mot école.
Chukwumazo veut dire enseigner. Twap vient de Midwap qui est une maison.
Est-ce que ça veut dire qu'avec une langue qui est ainsi formée, on peut plus facilement inventer des mots qui correspondent à la technologie moderne, par exemple? Je pense à l'Internet, là.
Non, malheureusement.
Ah? C'est plus difficile de former des mots... Qui ont un lien avec la technologie.
Parce que la langue Innu est d'abord une langue qui est descriptive. Donc, il faut qu'on décrive ces mots-là. Il faut que les personnes sachent de quoi il s'agit. Fait que si on invente plus c'est récent, plus c'est difficile de l'expliquer. Fait que plus c'est lancé à la traduction, ça va être une périphrase.
Est-ce que vous avez un mot pour Internet?
On a un mot pour ordinateur qui veut dire Tosteogadi Dabdagan. C'est l'appareil où on regarde, où on écrit, où on travaille.
Ah.
C'est comme ça qu'on forme des nouveaux mots. Justement, cette semaine, on a fait une intervention à la radio où on a invité la population à nous appeler pour créer des nouveaux mots. Fait que ça a très, très bien répondu. On a eu une cinquantaine de personnes qui ont appelé pour nous suggérer des nouveaux mots. Nous, ce qu'on va faire avec la liste de mots qu'on nous a donnée, c'est qu'on va faire des choix. On va diffuser ça sur la page Facebook. Et ça fait partie de la sensibilisation aussi. C'est la population elle-même qui participe à la création de nouveaux mots.
Madame Saint-Onge, Madame Canapé, on va prendre une petite pause musicale, on vous revient tout de suite après.
D'accord.
Chikaiwi Pishwikun. J'aimerais ça que peut-être mes invités me reprennent du groupe Maten. J'ai pas dû le dire comme il faut.
Chikaiwi? Ma mère?
Chikaiwi Pishwikun.
Ushmuidun?
Ah, bon, ben c'est ça, c'est une chanson du groupe Maten.
Okay, Chikaiwi, ça veut dire ta mère.
OK, ben je vais avoir besoin de cours d'Innu, je pense. la revitalisation de la langue Innu, ça passe aussi par la culture. Si je comprends bien, Madame Canapé, vous écrivez des haïkus, vous écrivez de la poésie.
J'avais suivi une formation là, pour écrire des haïkus. Je voulais connaître ça. Fait que j'avais participé à ce projet-là d'écriture. Mais tu sais, je ne me considère pas comme une poète, là, mais j'avais fait cet essai-là.
C'était une belle expérience?
Oui, absolument. C'était pas évident, là. C'est de décrire, c'est de imager. Ça veut dire que tu écris juste trois lignes, mais il faut que ça ait un impact là, au niveau de l'imaginaire. Il faut que tu aies une image. Il faut faire ressortir une image par rapport à ces trois lignes que tu vas écrire.
Il y a quelque chose dans le haïku qui il ressemble un peu à la langue dont vous parliez tout à l'heure dans les nous. Vraiment, oui, cette image-là est importante, justement.
Oui. Ben, après, j'ai fait un bel essai là, pour...
Avez-vous eu du plaisir à faire ces essais-là?
Oui, mon Dieu, mon cerveau a couru. C'est vrai.
Ben, on peut courir des bois, on peut courir des mots aussi. Hein? Oui,
ouais, c'est parce qu'il fallait toucher la culture. Là, j'essayais de voir à l'intérieur de la communauté là, qu'est-ce qui peut me différencier de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ma communauté qui différencie de l'autre culture?
Puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les longues promenades sur le long de la rive, de la Bessamite, puis du fleuve, la longue plage?
Oui. Comment on le vit? Il y avait eu une baleine échouée. Tout le monde est allé voir un peu la baleine échouée.
Je voyais dans les descriptifs qu'on parle de la langue, les mots qui sont dans cette langue, autant de bâtons à message. C'est une très, très belle expression pour te décrire la chose.
C'est de laisser des traces.
Dans votre mission de faire revivre à la fois la culture puis de revitaliser la langue, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Quels sont les obstacles que vous avez à surpasser pour y arriver?
Surtout au niveau des jeunes, c'est difficile les jeunes trouvent que la langue est difficile. La langue n'est pas importante. Elle est moins importante que le français. Les jeunes n'ont pas comment je dirais ça?
Du maintien de la langue.
Exactement. C'est ça. Nous, on a beaucoup de mal à...
La technologie aussi. Avec la technologie, les jeunes sont connectés. Donc, on n'a pas assez de matériel. Là. Le temps de réalisation, c'est long. Il faut aussi un budget. Si on n'a pas de budget, on ne peut pas réaliser quelque chose de technologique. Là. Et puis, on a besoin d'éléments, des ressources humaines pour le faire aussi, des ressources matérielles. Donc, comme je vous disais, on est un groupe...
On est une petite équipe
de travail.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une volonté politique de la part des membres du conseil pour pousser cette revitalisation-là, de faire plus de demandes de financement, peut-être créer des nouveaux postes aussi pour vous aider dans cette mission-là?
Ben oui, je dirais oui, parce qu'ils ont quand même créé ce secteur-là. Là. Ils nous ont quand même donné la chance de travailler d'avoir ce secteur, alors qu'avant, il y avait 2-3 personnes qui travaillaient, puis on change, puis on arrêtait ça, puis après ça, d'une année à l'autre, ça changeait. Maintenant, depuis plusieurs années, c'est stable.
OK.
Puis 8 ans à peu près, ouais, il y a une stabilité au niveau de l'équipe.
Fait que le travail peut continuer. Là, il ne va pas s'arrêter, puis il va être repris dans quelques années, là où c'était parti.
Ouais, ça assure une continuité, ben oui.
Exactement.
Puis
ça, on est très contents parce qu'on peut travailler à long terme. Maintenant, on peut voir à long terme.
Justement, si on se reporte à long terme, pour qu'une langue soit... vive, faut qu'elle ait des locuteurs, mais il faut aussi que les personnes qui aient des locuteurs, comme vous nous l'avez dit, voient l'importance de connaître la langue. Moi, je connais un organisme, pour le nommer, le Centre autochtone de la TUC, a décidé que la connaissance en langue autochtone était une compétence aussi importante puis rémunérée que Des compétences universitaires, par exemple, dans certains domaines, ou des compétences techniques.
Dans les relations avec
puis, les puis ça fait partie de la description de tâche, puis ça fait partie de la, de la rémunération. Est-ce que il est possible de voir un avenir à Pessamit, puis dans les communautés Innu, où on peut travailler, où la langue peut être vivante, où connaître l'Innu Aimun peut être vu comme une compétence importante, puis même considérée par les employeurs au point de vue monétaire?
Mais on n'est pas encore rendu là, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Moi, il faut juste y travailler ensemble.
Y croire et y travailler.
Oui, c'est sûr que ce serait très apprécié.
Croire l'importance de notre travail pour le mener le plus loin possible, pour continuer à préserver la langue, à la sauvegarder, à la maintenir, à...
Oui.
Mais j'ai l'impression, à vous entendre, quand vous parlez, par exemple, de la résistance des enfants, jusqu'à un certain point, qui ont tendance à parler plus français, qu'un de vos ennemis, c'est l'utilité. Parce que pour ces jeunes-là, ils savent bien qu'au niveau utilitaire, dans l'Internet et peut-être pour une job éventuelle, ça va être plus commode de parler français que de parler Innu. Ça se peut-tu?
Probablement. Probablement. C'est sûrement ça qu'ils doivent penser parce que... Nous, ça nous a jamais empêché de faire nos études et d'aller loin quand même dans notre, on peut dire, notre carrière en tant que...
On a pu réussir à
concilier les deux.
Mes compétences à maintenir mes compétences dans ma langue et à connaître, à devenir compétent dans l'autre langue aussi.
Exactement.
Demeure que vous avez eu des résultats qui sont positifs. C'est long. Il faut y mettre du temps, il faut y mettre de la patience. Mais vous avez réussi, en quelque sorte, à aller plus loin que c'était il y a 5 ou 10 ans, ça, c'est sûr.
Oui, exactement.
Oui, on y travaille fort.
Oui.
Parce qu'on veut vraiment sauvegarder la langue.
Et on y croit très, très fort aussi, là.
Mais c'est pas tout de travailler fort, d'y croire fort, c'est que vous voyez les résultats concrets et vous entendez des jeunes parler de plus en plus Innu quand ils le veulent bien.
Oui, c'est ça. Oui. La situation est quand même pas désespérée. On a des jeunes qui trouvent que la langue Innu est importante. Des jeunes qui veulent revenir pour travailler sur la langue Innu. C'est pas encore en train de se faire, mais ça se dessine vers ça.
Ben, c'est quand même encourageant quand je pense à d'autres nations comme ma nation où on a à peu près plus de locuteurs, puis il y a encore du monde pour pouvoir se pratiquer.
Oui,
exactement.
Il y a encore des aînés là, qui peuvent soutenir, aider.
On va le voir dans cette prochaine partie de l'émission, là, dans quelques minutes. Là où c'est la plus vivant, la langue, c'est encore en musique.
Hein? Oui.
Oui, exactement. Oui, vraiment. Là, je pense que ça a aidé. Que c'était.
C'est un bon moyen d'expression.
Exactement. C'est un bon moyen là, pour transmettre.
C'est sûr que quand on veut parler Innu, s'il y a une batterie derrière et une guitare électrique, ça aide en tabarnouche.
Oui. Ça a un effet d'entraînement aussi. Hein. Les jeunes aiment la musique. Puis ils vont essayer de chanter en Innu aussi.
Hélène Saint-Onge, Louise Canapé, Tchikis Noëten, je le sais que mon Innu n'est pas parfait, je vais l'améliorer. On me dit souvent que je remercie comme si j'avais fait des cours à l'Université Laval pour mon Innu. vous êtes Hélène Saint-Onge, gestionnaire de la culture, langue au Conseil des Innu de Pessamit. Louise Canapé, vous travaillez en soutien à la langue Innu au Conseil des Innu de Pessamit. Niat.
Oui.
Niat.
Merci.